à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité, nous vous parlerons de The Way, Hack and Slash et de Shyness. Nous enchaînerons ensuite. Non, désolé. Alors, pour vous expliquer, déjà, on a fait une première prise, on a stoppé là, parce que bon, chaque fou, non, ça va pas être possible, quoi, chaque fou financé, non, merde, bon, on verra ça tout à l'heure. Nous verrons ensuite le multi de Don't Starve, Unreal Tournament qui revient d'entre les morts, du gameplay pour Sunset Overdrive, une nouvelle console de salon chez Nintendo. Non, mais c'est pas ce que vous croyez, en fait, hein, je vous dis tout de suite.
C'est pas pour vous.
Voilà, du NFC, hein, toujours chez ce même Nintendo, enfin, si je puis dire. Activision, qui dépense des fortunes dans Destiny. Les dates, enfin, une date en particulier. Et enfin, notre jeu du moment, un jeu qui vous est totalement inconnu, hein, probablement, sauf si vous êtes un mec comme moi qui suit un peu les indés, ça s'appelle Consortium. Et je vous présenterai donc ce jeu tout à l'heure. Donc c'est parti, et nous allons commencer, Dwayne, avec The Way.
The Way. Donc, qu'est-ce que c'est The Way? C'est un jeu qui est fait par Playway. Ils veulent vraiment s'inspirer, en fait, de tout ce qui est Another World. On est sur du pixel, hein, donc en 2D, où on va, en fait, on est sur de l'aventure avec, effectivement, de la découverte, des puzzles, effectivement. Donc ça se concentre sur tout ce qui est flashback, Another World, cette période. Et franchement, ben ça a l'air vraiment assez beau. En plus, au niveau du budget, donc ils ont déjà financé le projet. On pourra en profiter très prochainement. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Lucien? Enfin, je sais déjà ce que t'en as pensé.
Alors, j'apprécie énormément la direction artistique. De toute façon, je suis un fan de flashback. Donc, enfin, flashback, à nouveau voir tout ça, ça me parle. Par contre, faut être clair avec tout le monde, c'est pas du tout innovant pour Asu. Hein, je veux dire.
Ah oui, là, ça, niveau innovation, oui.
Ne vous attendez pas à quelque chose de nouveau. Il faut aimer le pixel art, voilà. Mais voilà, en tout cas, l'ADA m'a vendu tout le truc parce que tu voyages tout de suite dans un autre univers. Et là où je serais pas d'accord avec des commentaires que j'ai vus notamment sur la news, je crois que c'était Herman qui avait fait un commentaire, il disait que c'était une direction artistique américaine. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'on appelle une direction artistique américaine? Est-ce que c'est parce qu'il y a des buildings au début de la vidéo typiquement américain qu'on dit ça? Oui, ok, mais le reste, je sais pas, moi, par exemple... le passage avec tu sais dans en mode futuriste là avec les espèces de immenses statues en fond là m'a plus fait penser à du Moebius par exemple. Je sais pas, Moebius c'est pas américain a priori, bon. Je suis pas trop d'accord. Moi je trouve que en tout cas au niveau de la DA, il a une identité visuelle qui lui est propre. Voilà. Après c'est il va falloir tout ce qui est écriture, etc. Même le gameplay, je me pose des questions quand même, parce que on parle de jeux comme Heart of Darkness, Another World, enfin c'est quand même des jeux qui ont pas mal vieilli en termes de gameplay, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à ce niveau-là? Je suis curieux, voilà. Il faudrait pas que l'ambiance soit flinguée par le gameplay.
Oui, c'est sûr que qu'à ce niveau-là, il faudrait... faudrait bien bosser. Après, voilà, au niveau de la DA, en plus c'est un pic, parce que moi je suis pas fan de pixels en général, mais c'est vrai que ce type de pixel me plaît, on va dire. Donc je pense le financer au cas où, parce que là effectivement ça pourrait aussi baisser, parce qu'on est vraiment à $600 du stretch goal. Donc
alors attends, c'est quoi leur stretch goal déjà?
Ils sont à 15 000 vraiment pour le financement du jeu. Donc les traductions, donc là c'est vers les $20,000, tout ce qui est scène animée, enfin les choses vraiment importantes. Là on est à $50,000 par exemple pour avoir vraiment des cutscenes animées, et ensuite à $100,000 c'est tout ce qui est sorti sur console. Donc là c'est pas vraiment important pour nous, mais on est...
Tu dis ça pour certains de nos auditeurs, c'est très important.
Oui, pour certains, mais je veux dire, après, c'est pas un jeu qui prend beaucoup de ressources, qui va prendre beaucoup de ressources en termes de PC, donc la plupart peuvent le faire tourner sur un PC.
Tu sais bien qu'il y a des gens qui ne conçoivent pas de jouer sur un ordinateur.
Oui, j'imagine, voilà. J'imagine.
Bon, maintenant je vais vous parler de Hack and Slash, à moins que tu aies quelque chose à ajouter.
Non, non, on peut y aller.
Donc Hack and Slash, c'est le nouveau projet de Double Fine en Early Access. Pourquoi on vous parle de ce projet? Tout simplement parce que, pour le coup, là, c'est original. C'est-à-dire que vous allez jouer à un petit personnage qui ressemble énormément à Link, d'ailleurs, sauf que le comparatif, ça reste là. Alors, Hack and Slash, je précise, c'est le hack au sens de pirater, en fait. C'est-à-dire que ça ressemble à un Zelda, sauf que, contrairement à un Zelda, vous allez pouvoir utiliser une épée un peu chelou qui va vous permettre de hacker, on va dire, les propriétés de certains objets. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que tu as un PNJ, grâce au hack, tu vas pouvoir modifier le comportement de ce PNJ-là, par exemple. À un moment donné, il y a une espèce de puzzle, tu vois, où tu passes sur un espèce de pont, mais en fait, c'est un espèce de pont transparent, si tu veux, et il fait que la moitié du chemin, donc il faut hacker la propriété de l'objet, tu vois, pour qu'il fasse tout le chemin, etc. Enfin, bref. Moi, je trouve ça original comme concept, en plus, c'est mignon au niveau de la direction artistique, mais vraiment, là, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est le gameplay en lui-même. Alors, il y a un autre jeu qui est comme ça, un peu, je me rappelle plus du titre, où c'est un espèce de jeu à la première personne, où tu dois... également changer les propriétés physiques des objets pour passer certains obstacles. Je vous mettrai le lien dans la description si je le retrouve. Moi je trouve ça intéressant en tout cas.
Bah ouais, c'est au niveau du gameplay, c'est vrai que là on est sur quelque chose qui, on va dire, brise un peu le quatrième mur. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on notre tactique d'attaque, c'est de jouer avec les propriétés du jeu et d'être en plein, on va dire, entre guillemets, dans le développement de l'aventure au sens hack du terme. Donc c'est vraiment super intéressant en termes de gameplay. Après, la DA est pas, bon, il y a rien d'exceptionnel en termes de DA,
mais c'est mignon, quoi, c'est tout, quoi.
Donc après, ça reste quelque chose de sympathique. Je sais pas si sur le long terme, ça reste très intéressant. Mais ça serait bien de voir ça développer. Donc là, il est en Steam Early Access. Est-ce que tu connais le prix? J'ai pas au niveau du prix. Non, bon.
Vous verrez. Donc, voilà. Vous verrez. On est pas là pour voir le jeu. De toute façon, démerdez.
Merde.
Shyness, projet français sur Kickstarter. Peux-tu nous faire une petite présentation, Dwayne?
Tout à fait. Donc Shyness, donc c'est un jeu un RPG aventure. Donc c'est Enigami et Ainifs Interactive qui développent ce jeu. Donc jeu d'aventure RPG à l'aspect un peu cel shading au niveau. Donc on est vraiment sur un jeu en 3D.
On va dire que ça fait très fortement penser à Tel Concerto. Pour ceux qui connaissent un univers avec des hommes chiens, tout ça. Bon, il y a des humains dedans aussi, mais grosso modo c'est ça.
Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez japonais dans l'esprit. Par exemple, au niveau du système de combat, ça ressemble pas mal à ce que CyberConnect fait, par exemple, sur Naruto. Après, on a un aspect RPG dans le sens où les combats pourront être abordés de plusieurs manières.
Moi, ça m'a fait penser à Okami, en fait, au niveau du système de combat. Le fait que tu entres dans une arène d'un seul coup comme ça... qui se crée autour du personnage.
Effectivement, il y a aussi il y a plusieurs zones, c'est-à-dire qu'il y a la zone de magie, donc lorsqu'on est éloigné, la zone d'attaque, et ensuite une zone où on va là pouvoir infliger beaucoup de dégâts, donc il faudra parfois être discret. Il y a aussi donc là c'est la promesse que font beaucoup de RPG, le fait d'avoir des quêtes secondaires intéressantes, mais bon. Là, il faudra juger sur pièce, de toute façon. Il y a aussi cet aspect où on pourra, je donne un exemple, donc on va être sur une quête, on va devoir prendre un objet, un monstre. Donc soit on va le tuer, soit on va effectivement pouvoir aussi négocier avec lui. Donc il y a effectivement cette variété dans le gameplay aussi. Et il y a un aspect un peu cross-média où on va pouvoir, par exemple, lire le comic book et retrouver une quête grâce aux découvertes que l'on fait dans le comic book. Donc c'est
bon, sachant qu'on dit comic book, mais c'est un manga en fait. Hein.
Voilà, oui, ils ont mis comic book, mais c'est vrai que ça ressemble plus à un manga au niveau des images qu'ils ont montrées. Dans tous les cas, c'est un jeu qui m'intéresse, je vais forcément backer. Après, ça va dépendre de...
Univers de la Sky,
tout ça. Voilà, effectivement, on est sur des îles flottantes. Donc, sur des îles flottantes...
Ce n'est pas un dessert.
Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Alors, moi, ce que j'ai trouvé très original sur ce projet, c'est le fait, par exemple, qu'ils aient créé leur propre langage pour... l'univers du jeu. Ce qui est aussi pratique, vu que, du coup, ils n'ont qu'à faire le doublage... qu'une seule fois. vu qu'ils ont leur propre langage, après ils mettent des sous-titres, quoi.
À ce niveau-là, d'ailleurs, il est, parce que moi je me suis dit, ouais, bon, créer leur langue, mais c'est pas mal parce que ça fait un petit mélange entre japonais, il y a un peu de langue africaine, enfin c'est vraiment bien fait au niveau.
Avec l'accent bien français quand même, hein.
Ouais, quand même, mais bon.
Ils ont le droit d'avoir l'accent français, hein, écoute, merde. c'est leur langue à eux, hein. bon, après, c'est pas une nouveauté dans le jeu vidéo. Je veux dire, on a déjà eu ça avec Panzer Dragoon, notamment, ce genre de choses, oui, voilà. Oui. Par contre, moi, honnêtement, je veux dire, globalement, c'est un Kickstarter qui est très solide, du gameplay, il y en a tout le long de la vidéo. On voit qu'il y a eu du taf, quoi. Sur le papier, là, comme ça, à première vue, j'ai rien à reprocher à Kickstarter. Le seul truc qui me dérange, c'est, la somme demandée. Donc, il demande 100 000 dollars. Je vous renvoie au dernier numéro de JV Le Mag, qui est sorti, donc le numéro qui est sorti ce mois-ci, là, qui parle d'un autre Kickstarter dont on avait causé ici, à savoir Planet Cube. Planet Cube, donc, qui, je rappelle, avait reçu 310 000 dollars. Ce qu'on apprend, grâce à JV Le Mag, c'est que, en gros, ils ont reçu, au final, Planet Cube, 120 000 euros. 120 000 euros, pourquoi? Ouais, parce que faut faire le détail quand même. Les taxes américaines, ce qu'on a tendance à oublier trop souvent, vu que je rappelle que pour passer sur Kickstarter, ils sont obligés d'avoir quelqu'un aux États-Unis qui reçoit l'argent. Donc il y a déjà une première ponction qui se fait là. Les taxes françaises, vu qu'ils envoient l'argent en France et qu'il y a une deuxième ponction qui se fait là. Les commissions d'Amazon et de Kickstarter, comme d'habitude. La conversion euros-dollars. Donc voilà, ça fait de l'argent. Ah oui, il y a aussi évidemment tous les paiements qui sont annulés à la dernière minute parce que la carte passe pas. Enfin, ça arrive souvent, hein, ce genre de choses. Voilà, donc au final, ça fait 120 000 euros. Donc si vous faites bien le calcul, voilà, ça a quand même pas mal baissé, quoi, on va dire.
Plus que ça, ouais, c'est là... Donc, on est à moins de 50% quoi, de la somme, c'est un peu...
Alors le truc, c'est que sur Planet Cube, ils le savaient. Ils avaient bien fait leurs calculs, etc. Ils le disent très clairement, c'est la somme à laquelle ils s'attendaient. Donc très bien. Donc ça veut dire qu'ils ont bien fait leur taf. Ils ont fait un projet à la taille de leurs ambitions, enfin en termes de financement, quoi. Donc moi je dis, à la limite, très bien. Hein, c'est, ils font leur popote, ça marche. Là où ça me pose problème, c'est que je ne suis pas sûr que tous les studios français qui se lancent sur Kickstarter sont conscients de ça. Et c'est le cas ici, parce que pourquoi je n'en suis d'autant moins sûr ici, c'est que les mecs sont, de ce que j'ai compté, 18 personnes. Donc 18 personnes, sachant qu'ils demandent 100 000 dollars, on va dire, allez, ils vont recevoir 40 000 euros quoi, à la louche comme ça. 18 personnes. Je sais pas si vous voyez combien de temps on tient avec ça. Alors après, bon, j'imagine qu'il y en a qui se font pas payer dans le lot, qu'il y a des développeurs qui bossent en permanence sur le projet, etc. Le seul truc que je dis, c'est que j'espère que par rapport à tout ce qui est stretch goal, etc., ils ont vraiment bien calculé leur truc, parce que pour le coup, quand tu commences à promettre la lune à des gens et que tu n'as pas de somme suffisante pour, disons, financer tes ambitions, bah ça pose un problème après pour tenir tes promesses.
Ouais, c'est clair. J'espère qu'ils l'ont fait en se disant qu'effectivement ils vont pouvoir dépasser l'objectif, mais c'est vrai que 100 000, s'ils étaient au courant de ce que ça allait amener en termes de pertes par rapport au but final, donc c'est vrai qu'ils auraient, je pense, mis plus. Vu l'ampleur du projet, on est plus sur quelque chose qui serait à 150 voire 200 000 déjà, je pense, à recevoir. Donc effectivement, au niveau du projet, on a l'air sur quelque chose d'assez bancal en termes de coûts, quoi, de production. Donc dans tous les cas, on va voir combien ils vont réussir à récolter en tout, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne suis pas sûr qu'ils en aient pris conscience directement.
Bon, dans tous les cas, moi, c'est clair que c'est un projet que je vais financer parce que c'est un projet français ambitieux, avec une vraie direction artistique, avec un doublage complet, en plus, typiquement le genre d'univers qui me plaise, quoi. Je veux dire, univers d'île flottante, etc. Encore une fois, ce n'est pas un dessert. Ça me parle. Forcément, ça me parle. J'espère, encore une fois, juste qu'ils ont bien fait leur calcul. Voilà. Bon. Ouais. Alors là, pour le coup, un projet qu'on aurait souhaiter qu'il soit pas financé. C'est Shaq-Fu qui a été financé sur Indiegogo. Bon, Dwayne, je sais pas si vraiment il y a besoin de faire un commentaire sur ça, en fait, mais...
Ouais. Comment dire? Ils ont demandé, donc, à la base, 450 000 dollars. Ils étaient déjà arrivés, je sais plus à combien, peut-être à 100 et quelques, ce qui était déjà trop, lorsqu'on en avait parlé. Le truc, c'est que là, ils ont fini leur campagne et ils sont arrivés à 473 000 dollars. Donc, pourquoi? Pour faire Shaq-Fu. A Legend Reborn.
Qui est en gros un clone de Street Fighter 4, hein, de ce que j'ai vu.
En gros, beaucoup moins bien, bien sûr, vu que... Enfin...
T'en sais rien, hein, je te ferai remarquer.
J'en sais rien, effectivement, mais je veux dire, lorsqu'on voit ce qu'ils ont réussi à faire, je veux dire, au niveau du des stretch goals, bon, voilà. Le projet, franchement, sans Shaquille O'Neal derrière, imagine le projet sans Shaquille O'Neal derrière, c'est juste risible, quoi. Ils auraient peut-être récolté... de 200 dollars, je sais pas. Voilà, c'était juste pour dire que j'ai perdu toute foi en l'humanité, hein, il y a deux jours lorsque j'ai vu ça, donc voilà, c'est très dur.
Bon, attends, c'est pas fini. on va maintenant parler de Towns, pour le coup. Alors ça, c'est mon coup de gueule de la semaine. Coup de gueule déjà par rapport à la presse, et ensuite coup de gueule par rapport à l'auteur du projet. Coup de gueule par rapport à la presse, pourquoi? Parce que j'en ai marre des inexactitudes à la con. Bon, nous aussi, des fois, ça nous arrive de dire des conneries dans ce podcast, hein, sauf qu'on n'est pas payé pour dire des conneries, en fait. Donc, je vous refais le déroulé des événements. Towns, donc, c'est un jeu qui a été financé par Alpha. C'est d'ailleurs un jeu dont on avait parlé ici. En gros, c'était un clone de Dwarf Fortress. Voilà, en gros. Il se trouve que, je crois qu'il y a un an de ça, à peu près... l'auteur, je sais pas s'il a fait une dépression, enfin bref, je crois que sa femme a eu un cancer en plus. En gros, le mec a fait un burn-out, il a arrêté le projet, quoi.
Ouais.
Il a engagé quelqu'un à sa place pour faire le jeu, en lui promettant, grosso modo, 15% des revenus que dégagerait le jeu. Voilà. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les ventes du jeu qui depuis est arrivé sur Steam, quand complet, je précise, il n'a jamais été en early access. Hein, c'est notez bien, Towns n'a jamais été en early access sur Steam. Il est arrivé sur Steam avant que le programme early access soit mis en place. Donc le jeu est arrivé sur Steam, mais le problème c'est que les ventes ont baissé de plus en plus. Et que du coup, ben le mec qui bossait à la place de l'autre, il a fini par dire, mais moi je suis désolé, mais le salaire que je reçois là, il me permet plus de vivre correctement et de payer mon loyer, quoi. Surtout qu'en plus avant, je gagnais bien ma vie. Donc désolé, mais moi j'arrête là. Ce qui, après tout, moi me paraît compréhensible. Ce n'est qu'un salarié qui était payé, oui, engagé par l'auteur du projet. Hein. Donc non, parce que il y a des gens qui l'ont mis dans le même sac que l'auteur du projet, ce qui me dérange un peu. Hein. Je veux dire, le mec, il est pas responsable des conneries du chef de projet. À un moment donné, faut arrêter, quoi. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Donc face cette semaine, le projet est donc à l'arrêt. Peut-être qu'il réengagera quelqu'un d'autre, je ne sais pas, qui acceptera de bosser pour pas cher, surtout que maintenant les ventes vont encore plus baisser, vu que tout le monde sur Internet en a parlé de ce projet. En mal. Donc, ce qui me gêne ici, c'est que toute la presse a titré, en gros, enfin toute la presse, on va pas généraliser, mais pas mal de sites de jeux vidéo ont titré Towns, décrédibilise l'Early Access. Oui, mais il a jamais été en Early Access, le jeu. Alors, je dis pas que le jeu ne pose pas des questions vis-à-vis du financement par Alpha, mais, je veux dire, on a suffisamment de projets bancals en Early Access pour qu'on aille chercher le seul projet qui n'a jamais été marqué Early Access pour parler de ça, quoi. Enfin, à un moment donné, voilà. Le projet a suffisamment de spécificités propres pour qu'on s'arrête sur son cas, parce que, d'après moi, il soulève d'autres questions, en fait. Notamment, c'est la question suivante. Alors oui, le programme Greenlight, c'est cool, mais est-ce qu'à un moment donné, Valve check les jeux là? Parce que je veux dire, on a quand même, je sais pas si vous réalisez, un jeu qui n'était pas fini, qui est arrivé donc sur Steam et qui était marqué comme fini. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté le jeu comme ça, qui n'ont pas lu la description du jeu, et qui se sont retrouvés avec un jeu bancal, tout simplement. Bon, et parce que je précise que déjà au départ, c'était pas marqué très clairement que c'était un jeu pas fini. C'est quand les gens commencent à gueuler qu'il a, ah oh, bah tiens, on va le marquer comme ça, on est tranquille. Déjà, il y a ça. Puis, il y a aussi le fait que, comme le jeu n'est pas en, marqué en Early Access, l'auteur du projet se permet de sortir des âneries sur son forum, comme quoi, mais en fait, à partir de quel moment on peut dire qu'un jeu est fini ? Tu vois, moi je suis désolé, ça fait des mois qu'on a sorti des features, etc. Je considère que le jeu est fini. Et puis après tout, il a pas tellement tort, vu que le jeu est marqué fini sur Steam. Hein ? Voilà. Alors que s'il était en Early Access, bah, les gens, le jeu il serait encore en Early Access, actuellement, parce que très clairement, il peut dire ce qu'il veut, le jeu n'est pas fini. Et donc... les gens pourraient lui sortir, mais pourquoi tu l'as pas mis en, tu l'as pas sorti sur Steam ton jeu là, s'il est fini, hein, voilà. Et donc voilà, l'auteur n'assume pas, et ça c'est parce que le jeu n'est pas en Early Access. Alors qu'il y a plein de jeux qui font effectivement de la merde en Early Access, mais ils sont obligés au moins, tu vois, à minima, de reconnaître qu'ils ont fait de la merde, tu vois, et même voire d'assumer le fait de rembourser les gens, parfois, pas toujours. Et puis il y a aussi le cas de Steam. Alors, il faut savoir que la politique de Steam sur les jeux early access, elle est assez floue. Hein. D'un côté, ils te disent qu'ils remboursent pas, mais de l'autre, en général, quand les jeux early access font gueuler les gens, ils les remboursent toujours en fait. C'est Valve quoi, ils ont une politique très opaque par rapport à leur gestion des early access. Mais là, comme le jeu n'est pas marqué en early access de toute façon, ils ne vont rembourser personne, et ils font les morts là actuellement. Voilà. Ouais. Donc c'est mon coup de gueule. Déjà la presse, merci de bien faire votre travail. Alors je dis pas encore une fois qu'on ne peut pas développer un article sur le financement par Alpha à partir de ce cas d'école là, mais on peut pas faire des généralités à partir de ce cas là parce que ce cas là justement a des spécificités qu'on trouve pas sur d'autres jeux en early access qui posent aussi problème. D'ailleurs, on a eu un autre jeu qui a fait le scandale cette semaine sur Steam, c'est Earth 2066, un truc comme ça, qui a eu droit, qui a été retiré du store et qui a été remboursé par Valve, en fait. Enfin, bref. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça illustre encore une fois que le fait de financer des jeux pas finis, ben... des fois, ils se finissent pas, quoi. Et même le financement par Alpha, bah, ce n'est en rien une sécurité. Qu'il faut bien avoir conscience de ça, quoi.
Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'ennuie avec tous ces jeux qui se vendent. Après, il y en a certains, comme par exemple Starbound. Ben, j'ai effectivement, ça a l'air quand même assez assez riche déjà, même si on est encore en Steam Early Access. Mais des jeux, par exemple, comme DayZ, dont on parlait déjà, où on voit que ça n'avance pas, et au final ça se vend très bien, donc tu te dis au final, est-ce que les développeurs vont réellement travailler dessus et le finir à un moment donné, quoi. Donc c'est toutes ces questions là qui se posent au niveau de ces alpha payantes, quoi.
Don't Starve, Dwayne.
Donc Don't Starve, donc du multi effectivement, donc c'est ce sera proposé sous la forme d'une extension gratuite, donc qui s'appellera, donc après un long brainstorming, hein, Clay Entertainment s'est dit, bon, on va l'appeler Don't Starve Together, voilà. On pourra y jouer de 2 à 4 joueurs. Donc ils vont effectivement changer tout ce qui est équilibrage au niveau du jeu pour pouvoir s'adapter, donc lorsqu'on joue à 2, à 3 ou à 4. Donc voilà, ça va vraiment être une extension gratuite qu'ils ont prévu de sortir fin juin. Et où on va pouvoir survivre. Ça serait quand même pas mal. Enfin, c'est quelque chose que les joueurs demandaient depuis un moment. Clay Entertainment disait effectivement que eux, ils ont vraiment équilibré leur jeu pour le solo. Ils ont cédé, donc ça devrait sortir à la fin de l'été, en fait.
Ok.
Voilà.
Alors, moi, je vais enchaîner sur Unreal Tournament qui revient. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Unreal Tournament, ça a été, on va dire, l'un des principaux concurrents de Quake 3 à l'époque de ce qu'on appelait donc les fast FPS. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les FPS, ils ont un peu de tension, quoi, par rapport à certains jeux qu'on avait à l'époque. Et les FPS en arène, tout simplement, qui ont un peu disparu de la circulation aussi. Donc, pourquoi on vous parle d'Unreal Tournament cette semaine? C'est surtout en fait par rapport à son modèle économique qui est assez particulier, et même au-delà de son modèle économique, son modèle de développement. parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, en fait, Unreal Tournament sera gratuit. Mais attention, quand je dis gratuit, ce n'est pas free to play, comme certains peuvent l'entendre, c'est vraiment gratuit, c'est-à-dire que vous aurez le jeu gratuitement. Alors là, les gens me disent, oh, Thierry, tu déconnes, là, franchement, un jeu gratuit, ça n'existe pas. Et si ça existe, pourquoi? Parce que donc Epic a un modèle économique basé sur la vente de moteurs, ou plus précisément sur le support accordé aux développeurs. Je vous explique. Unreal Tournament sera un jeu avec un moteur open source, où les développeurs pourront soumettre leurs modifications du moteur à Epic, qui pourra les valider ou non. Le jeu sera fait en développement participatif, c'est-à-dire que la communauté va contribuer au développement du jeu, va directement impacter sur le gameplay, sur le game design, etc. Enfin bref, c'est vraiment un jeu qui va être développé en partenariat avec la communauté. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, en fait, c'est que, un peu comme les moteurs comme Unity, etc., qui se font leur beurre sur... les assets qui sont vendus par les développeurs sur un store, ce qui permet de développer des jeux assez rapidement, parce qu'en fait tu peux acheter plein de petits bouts comme ça que tu assembles et ça fait un jeu, quoi, on va dire. Sauf que au lieu de vendre des assets, on va vendre des mods. Il va y avoir un store un peu comme il y a un store sur Dota par exemple, sauf que sur Dota c'est que des items, et sur ce store les gens pourront acheter des mods, et donc les revenus de ces mods seront partagés entre Epic et les développeurs qui ont fait ces modes-là. Et c'est pour ça que le jeu de base est totalement gratuit, parce que l'idée, c'est que vraiment, on va avoir une communauté qui va s'intéresser au moteur du jeu, qui va s'essayer au jeu, etc., et qui, du coup, en s'essayant au jeu, va peut-être vouloir faire des modifications, etc., ce qui crée, si tu veux, un espèce de cercle vertueux où il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser les outils d'Epic Games, en fait. Et qui, si ça se trouve, quand ils vont vouloir développer un projet, bah, comme ils connaissent les outils d'Epic Games, bah, ils vont lancer un projet avec les outils d'Epic Games, tu vois.
Eh oui.
L'idée derrière, c'est de se créer une communauté d'utilisateurs qui connaît les outils d'Epic Games, quoi.
C'est vraiment le double jackpot. C'est-à-dire que d'un côté, si le jeu fonctionne bien, t'as ensuite une communauté qui se met autour. Vu qu'on est effectivement maintenant dans une société 2.0 où on va dire tout le monde communique directement, donc déjà de leur côté les développeurs vont ensuite aller sur un moteur qu'ils connaissent s'ils font des mods et qu'en plus cela fonctionne au niveau de l'Unreal Engine, et ensuite ils en parlent en bien à côté avec leurs autres amis développeurs, donc ça crée une communauté autour du moteur et autour du jeu, donc c'est effectivement double jackpot pour Epic.
Alors je voulais te demander, est-ce que ça te pose un problème que la communauté contribue au développement du jeu? Parce que j'ai lu pas mal de posts sur Internet qui disaient qu'en gros, oui, ça va partir dans tous les sens, enfin, ça va être n'importe quoi, en gros, ouais. Et en plus, ils profitent de développeurs gratuits, etc., scandale, voilà.
De ce que j'ai entendu, enfin, et de ce que je connais de d'Epic, je pense pas qu'ils vont laisser ça partir dans tous les sens. On sera sur quelque chose de communautaire, mais tout de même contrôlé par les développeurs et les gens de chez Epic. Donc je pense pas qu'on aura quelque chose vraiment de désordonné à ce niveau-là.
Alors, moi, ce que je voulais répondre, en fait, c'est que de toute façon, ils vont faire ça avec leur engine. Donc ça veut dire qu'à mon avis, ils ont déjà prévu le coup, parce que s'ils laissent les développeurs participer au développement de l'Unreal Engine, comme ils l'ont annoncé récemment, ça veut dire qu'ils ont un système de validation qui est en place. Et de toute façon, je veux dire, Epic, c'est une société donc qui est habituée au support, et qui, à mon avis, a les moyens, si tu veux, de canaliser toutes les propositions de la communauté par rapport au jeu, en fait.
Oui, bien entendu. Franchement, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, au niveau du développement communautaire. C'est vraiment quelque chose qui pourra même être super intéressant. Et ensuite, avec les mods, en plus, avoir du contenu en permanence. Donc, ça reste une très bonne nouvelle, cette annonce et ce modèle économique.
Et encore une fois, je le redis, le jeu est totalement gratuit, hein. Le jeu de base est totalement gratuit. C'est, si vous voulez de l'extra, quoi, il faudra payer. Mais là, j'ai envie de dire, J'espère par contre qu'il y aura un système, tu sais, par exemple, de vote, etc., pour dégager les contenus un peu plus intéressants par
oui,
rapport.
Oui, bah ça voilà, c'est dans tout ce qui est même pour les petits jeux comme Trials ou ce type de choses, c'est pareil. Il y a les votes et puis tout ce qui ressort, c'est vraiment les contenus des fans, mais les contenus de qualité, les autres sont un peu éjectés ou mis. très loin dans la liste, donc dans tous les cas il y a toujours cet aspect communautaire qui est pris en compte, vu que là c'est la base en plus du projet, donc c'est toujours pris en compte et il y a les votes qui font qu'on a surtout les contenus de qualité qui sont mis en avant.
Bon, on va passer à Sunset Overdrive, Dwayne. Alors, peux-tu nous présenter ce jeu?
C'est Insomniac hein, qui développe ce jeu, Insomniac hein, qui depuis Spyro donc travaille avec Sony, donc le retournement est d'autant plus étonnant. Le truc avec Insomniac, c'est qu'ils ont fait effectivement, comme j'ai dit, donc Spyro. Il y a aussi la saga Ratchet & Clank. C'est des gens qui s'y connaissent, on va dire, en humour, en plateforme. Donc après, ils sont passés sur Resistance et sur le très malheureux Fuse. C'était vraiment un mauvais jeu. En fait, ils avaient délivré un teaser en mode un peu TPS, super fun. Et on est arrivé avec un clone de Gears of War, mais en mode, c'était le Gears of War du tiers-monde, là. C'était vraiment très mauvais. Donc là, ils arrivent avec quelque chose, je pense, que ça va vraiment être bon, dans le sens où c'est vraiment leur expertise, parce qu'on est sur quelque chose d'assez fun. Donc pour reprendre Sunset Overdrive, c'est un TPS en mode un peu Dead Rising, où on va pouvoir avoir des armes complètement loufoques. On est sur un monde post-apocalyptique, mais malgré tout assez coloré. Et on va pouvoir se déplacer, c'est-à-dire l'aspect survie, ça va être se déplacer constamment. Il y a un mode où on va pouvoir effectivement grinder, on va dire, sur les poteaux électriques ou autre, se déplacer un peu comme à la BioShock Infinite avec un harnais dans tous les sens, sauter partout. Donc c'est l'aspect TPS, des missions, mais ça a l'air quand même, par rapport à l'expertise qu'a Insomniac sur tout ce qui est humour et action, armes un peu loufoques, donc ça a l'air d'un retour aux sources qui je pense, pourra être intéressant.
Bon, j'imagine que t'attends beaucoup, hein, parce que Dead Rising, tout ça.
Ouais, j'attends plutôt. Après, je reste quand même sur mes gardes parce que ce qu'ils ont fait dernièrement, c'était quand même Fuse, quoi. C'était l'un des. C'était vraiment mauvais, quoi. Quand j'y ai joué, je souffrais, quoi. Je me suis dit, putain, Insomniac, ils peuvent me faire ça. C'est chaud. C'est comme si t'avais. Un mauvais jeu Naughty Dog, quoi, parce que pour moi Insomniac c'est vraiment une super boîte, et c'est comme si t'arrives avec un jeu Naughty Dog pas moyen mais super mauvais, donc c'est ton monde s'écroule, quoi, c'était dur, quoi.
Bon, allez, on va mettre ta douleur derrière toi, on va parler de la nouvelle console Nintendo, ou pas. Non, franchement, t'as quelque chose à dire dessus? Je veux dire, une console Nintendo pour les marchés émergents, bon.
Non, en fait, ce que je voulais voir avec toi, c'était au niveau, tout simplement, il y a Satoru Iwata qui s'est exprimé à ce sujet, et il disait qu'il voulait faire des jeux et une console qui pourraient s'adapter au marché émergent.
Ah, mais qui pourraient s'adapter?
Non, ils veulent vraiment s'adapter au marché émergent. Donc
non, mais parce que s'adapter au marché émergent, ça veut pas dire que tu ne la vends pas en Europe, hein. Je te ferai remarquer.
Oui, mais quel serait le concept, en fait, parce que ça serait effectivement avoir une console moins chère avec des jeux, donc en termes de graphisme et d'ambition de moins bonne qualité. Enfin, je dis ça, mais ça pourrait être autre chose. Dans l'esprit, ça serait ça, faire quelque chose de moins bonne qualité, de moins cher. Et je vois pas l'intérêt, en fait, parce que les marchés émergents, en général, par exemple, lorsqu'on est passé à la PS3, la 360, au niveau des marchés africains, etc. Donc, ils sont passés à la PS2.
Non, mais les marchés émergents, ils sont pas sur Steam, en fait. Enfin, sérieusement, regardez le Brésil, regardez la Russie. C'est deux marchés qui consommaient pas trop de jeux vidéo. En tout cas, pas de manière légale. Et depuis que Steam est arrivé là-bas, bah, c'est la folie, quoi. Je veux dire, les Russes envahissent Steam. Le Brésil, c'est pareil. Ils ont plein de boutiques en ligne, etc. Est-ce que les marchés émergents ont besoin de Nintendo, quoi? C'est la question que je pose. Et est-ce que sortir des produits low cost Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire une division spéciale produits low cost chez Nintendo pour les marges émergentes. Enfin,
ouais, c'est ça mon problème, parce qu'après les jeux qui vont sortir là-bas, c'est quoi? Est-ce que nous on les aura aussi? On va devoir les tester, donc dire oui, ce jeu-là il est moyen. Nintendo va répondre en disant oui, mais il est fait pour être moyen. Oui, mais on s'en fout, c'est un jeu pas terrible. Donc après je comprends pas vraiment leur stratégie. Donc il faudra attendre de voir ceux qui vont sortir. Donc c'est prévu pour l'année prochaine.
Ou alors un truc totalement des maths pour les marchés émergents, où en fait les jeux vendus en des maths seront vendus pareil chez nous, ce qu'on y jouera sur les consoles Nintendo qui sont vendues de par chez nous, quoi. C'est tout. Hein. Ça sera vendu en des maths, quoi.
Ça serait une idée intéressante, effectivement.
Pourquoi
donc,
pas
à voir.
Je sais pas. Vraiment, ça dépend de comment ils vont gérer ça. D'ailleurs, à propos de trucs qu'ils ont mal gérés. Quand la Wii U a été annoncée, je me disais, ah là, le NFC, tu sors un jeu Pokémon avec des figurines. Là, c'est bon, c'est Skylanders chez Nintendo, quoi, c'est la fête. Faites péter champagne, les mecs. Bah non, il y a rien eu. Enfin, c'est à peu près comme tout ce qui est les promesses de la Wii U, en fait. Si tu veux, il y a rien eu. Ils ont sorti un gamepad avec écran, ils en ont rien fait. Enfin, le gameplay asymétrique, c'est une grosse blague. Le NFC, ben voilà, y a rien dessus. Je sais pas, je ne comprends pas en fait ce qui se passe chez Nintendo. Ils se réveillent maintenant. Bon, tu me diras mieux vaut tard que jamais. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard justement?
Franchement, non, je pense pas. Tu sais, je veux dire, regarde, il y a eu Skylanders, donc ça a super bien marché, plus d'un demi milliard. Engendrant en termes de chiffre d'affaires, il y a Disney Infinity qui est arrivé, qui a explosé après Skylanders en termes de chiffre d'affaires. Donc là, pourquoi pas? Pokémon, c'est, je veux dire, une marque hyper connue que les gamins adorent toujours. Donc sortir ça, des figurines Pokémon en mode NFC, faire un petit, je sais pas, un Poké Stadium ou un jeu Pokémon en mode aventure. Je veux dire, c'est le carton. Quasi assuré.
Moi, je vois d'ici, tu vois, les figurines en édition limitée, un peu comme, tu sais, ils avaient distribué à une époque Mewtwo en édition limitée en certains tournois, tu vois. Je vois bien la figurine édition limitée du Pokémon super rare, tu sais, mais vraiment rare.
Bah ouais, bah ouais.
Tu vois que t'auras que, il sera interdit en tournoi.
Mais oui, mais c'est clair, il y a un potentiel, mais de malade. Tout le monde se demande pourquoi ils l'ont pas fait, quoi. Je veux dire, c'est le carton assuré. Donc après, voilà, comme tu dis, mieux vaut tard que jamais. S'ils se réveillent maintenant, c'est toujours mieux que pas du tout.
Non, mais c'est juste que j'espère que la Wii U sera toujours vivante d'ici à ce qu'ils sortent le truc, quoi. C'est tout. Après, bon, Activision qui dépense des sommes totalement indécente, oui, c'est le mot, indécente. Parce que là, franchement, je pense que en termes de coûts, c'est totalement délirant. Mais là, c'est mon avis. Hein.
Ouais. Enfin, après, il faut nuancer un peu. C'est-à-dire que là, ils mettent effectivement. Donc, il y a Kotick qui a annoncé. Hein, ils mettent donc là 500 millions sur la table pour la licence Destiny. Donc après, ce sera, on pourrait dire, c'est parce que c'est vraiment les 500 millions, c'est pour les quatre premiers jeux. Donc on est effectivement à peu près 125 millions par jeu, hein, si on divise. Après, je sais pas combien ils mettent réellement pour chaque jeu, mais il y a déjà 500 millions qui sont annoncés pour la licence Destiny, sachant qu'on est sur un contrat de 10 ans. Après, c'est un pari que fait Activision. À la limite, si Activision coule, j'en ai pas grand-chose à faire.
Non, mais si tu veux, tu réalises quand même que là, on est en train de t'annoncer que maintenant, on est arrivé à un tel stade de délire qu'on t'annonce 4 jeux pour une licence. Tu vois, c'est...
Voilà, c'est ça le problème. C'est que si le premier Destiny... Parce que effectivement, il y a jamais, je veux dire, de à part lorsque tu parles de Star Wars qui sort au cinéma, il y a jamais de succès... prédéterminé, surtout pour une nouvelle licence. Donc là, il y a Destiny qui arrive. Moi, personnellement, je suis assez attiré par le jeu. Ça me paraît pas mal comme univers. Mais il faut, par exemple, pour rentabiliser, qu'ils en écoulent 15 à 16 millions pour le premier Destiny. Donc ça me paraît quand même assez compliqué pour une première itération. Après, bon, ils ont confiance en leur licence, mais...
À mon avis, ils ont surtout confiance dans le budget marketing, mais...
Effectivement, c'est aussi le cas, vu que le marketing a une très grosse importance. Donc, C'est vraiment un pari que je trouve assez risqué quand même, mais bon. Au final, bon, qu'Activision mette moins d'argent dans Call of Duty et plus dans les mecs qui ont fait Halo, je vais pas non plus me plaindre trop, on va dire.
Voilà. Bon, allez, une dernière date pour la route, Soldat Inconnu, ça sort quand?
Donc ça sort effectivement, donc là le 25 juin, donc Soldat Inconnu, donc le deuxième jeu UbiArt Framework, au-delà des Rayman, effectivement. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu qui paraît quand même assez intéressant. Il y a de l'émotion, comme dirait un certain David Cage.
Bah, donc, surtout c'est un jeu Ubisoft Montpellier. Donc Ubisoft Montpellier, c'est Michel Ancel, hein, voilà.
Voilà.
Donc a priori, on peut leur faire confiance pour faire un truc pas trop dégueulasse.
Ouais, ben même parce que là ils ont sorti la date avec un autre trailer. C'est vrai que ça donne vraiment envie. Donc au niveau du tarif, ce sera pareil, hein, 15€, disponible sur tout, 360, One, PS4, PC. Voilà, donc ça sort le 25 juin à 15€ sur toutes les plateformes, à part la Wii U.
Voilà. Ce qui m'intéresse plus, par exemple, tu vois, par rapport à Shadow of Light, c'est que je trouve déjà le setting original. C'est-à-dire que Shadow of Light, bon, voilà, c'était joli, mais au-delà du joli, je veux dire, c'est de la fantasy très classique. Alors que là, un jeu qui traite de la Première Guerre mondiale, des tranchées, etc. Enfin, c'est. Alors oui, il fut une époque on a eu pas mal de FPS, mais c'était surtout sur la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, en fait, elle a pas tellement été traitée. Et voilà, le setting m'intéresse. Après le jeu, c'est vrai que ça a l'air assez nébuleux pour l'instant.
Ouais, c'est ça. Au niveau du gameplay ou autre, bon, peut-être qu'on sera sur quelque chose d'assez point and click. Enfin, je sais pas exactement. Où ils veulent aller à ce niveau, donc après, dans tous les cas, ça donne assez envie au niveau que ce soit la direction artistique, au niveau de l'histoire qui a l'air, du setting qui a l'air assez original. Donc, on attend le 25 juin pour se prononcer.
Bah justement, Dwayne, à propos de jeu original, je vais vous faire partager une de mes découvertes cette semaine. Ça s'appelle Consortium. This morning, I reported a few minutes to emergency personnel on site to find no survivors. Nice. Alors Dwayne, tu connais Mass Effect, je suppose.
Oui, je connais Mass Effect.
Ça va, tu n'es pas un culte. Je suis fier de toi, Dwayne. Donc, imagine un jeu où tu jouerais le commandant Shepard, sauf que tu serais enfermé dans le Normandie,
okay.
Et que tout le jeu se déroulerait autour des dialogues, en fait. Voilà. Mm-hmm. Tu as à peu près une idée de ce qu'est Consortium. Enfin, c'est une première idée. Maintenant, rajoute à ça un jeu où on brise très clairement le quatrième mur, c'est-à-dire qu'en gros, le pitch de base du jeu, c'est que un satellite assez spécial a été mis en place par une société inconnue et que ce satellite, en gros, te permet d'avoir accès au futur. Et donc, par le biais de ce jeu qu'on appelle Consortium, tu vas pouvoir donc avoir un aperçu du futur. Et tu vas te retrouver dans un espèce d'avion ultra moderne, en fait, qui donc appartient au Consortium, et qui est en gros un espèce de gouvernement mondial qui est chargé de maintenir l'ordre. Et donc, toi, on va dire que t'es un peu des agents ultra spéciaux qu'on envoie régler la merde quand, voilà, il y a, par exemple, des fanatiques religieux qui menacent de tout faire péter, ce genre de choses, quoi. Déjà, est-ce que tu as des questions, Dwayne ?
Tu dis donc que ça se concentre sur tout ce qui est discussion, donc t'as effectivement une sélection comme avec Mass Effect. À ce niveau-là, au niveau des discussions, comment ça s'articule en fait?
Comme dans Walking Dead, tu as un timer, tu as différentes options de dialogue, voilà, sauf que ce n'est pas entièrement doublé. Alors, il faut savoir donc que le vaisseau où tu atterris est un vaisseau donc qui est composé d'un équipage et que chaque membre d'équipage a un nom de pièce du jeu d'échecs en fonction de son rade en fait. C'est-à-dire que les pions, bah, ce seront les pions quoi, tout simplement. Plus tu vas monter dans la hiérarchie en fait, et plus tu vas avoir un nom de pièce du jeu d'échecs importante quoi.
Ok.
Donc Consortium, c'est un jeu essentiellement axé sur le dialogue. C'est-à-dire que, en fonction de tes choix de dialogue, et j'ai envie de dire, contrairement à un certain Walking Dead, où les choix sont assez artificiels, quoi, on va dire, eh bien, tes choix ont un vrai impact sur l'histoire. C'est-à-dire que, l'histoire va prendre des embranchements totalement différents en fonction de ce que tu décides. Par contre, il y a juste une chose, l'histoire se finira toujours au même point, qui, et le point qui servira de départ en fait au jeu suivant, parce que c'est un jeu qui, je le précise, est en quelque sorte épisodique. Il me semble qu'il sera en 3 parties. Et le chemin que tu vas faire pour arriver à ce point-là sera différent à chaque fois, mais vraiment totalement différent. Le fait de faire différents choix, si tu veux, c'est intéressant parce que ça te permet de revoir la même histoire mais sous différents angles.
Et après, moi, ce qui m'avait, parce que je me rappelle, en fait, l'avoir vu sur Steam, ce jeu, et ce qui m'avait vraiment gêné, c'est au niveau de la, des graphismes, tout simplement. Donc ça, après, on peut s'en passer. Donc au niveau de l'écriture, t'as dit que c'est vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là.
Oui, alors, je précise, donc, quand je dis que le jeu n'est pas doublé, c'est juste pour le personnage principal. Parce que tous les autres personnages de l'équipage, eux, sont doublés. Et justement, on a un doublage que j'estime de qualité, avec de très bons acteurs qui sont vraiment dans leur rôle. Et on est dedans. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tous les membres d'équipage ont une personnalité. Tous les membres d'équipage ont des relations entre eux. Tu les regardes, par exemple, faire les langues de pute sur tel ou tel autre membre d'équipage, ouais, etc. Et puis là, d'un seul coup, t'as le membre d'équipage dont il parle qui arrive juste derrière, tu vois. Et il y a une qualité de mise en scène, de mise en scène au sens que voilà, c'est tellement bien écrit, si tu veux, que tu es vraiment plongé dans l'univers du jeu, quoi. Et en plus, comme par-dessus ça, tu as une espèce de quatrième mur qui est brisé en permanence du fait que tu incarnes un voyageur donc qui vient du passé et qui en fait découvre un univers totalement différent et que petit à petit, tu vois, tu te rends compte que ah mais peut-être que l'histoire elle est vraiment liée à toi, si tu veux, à toi en tant que personne, quoi. Toi voyageur qui vient du passé, quoi. Alors c'est pas le truc le plus subtil qu'on ait jamais fait dans le genre, quoi, si tu veux.
Ouais, mais en gros ça fonctionne bien dans l'univers du jeu, quoi, même si.
Voilà. Alors en plus, pour ceux qui, tu sais, aimaient dans Mass Effect fouiller le codex pour avoir des informations sur l'univers, etc. Alors là, vous allez vous régaler parce que il y a une espèce de base de données qui raconte différentes histoires. Par exemple, il y a un espèce de journal top secret d'une journaliste qui a suivi un autre équipage en fait du consortium et en fait qui enquête sur une espèce de secte religieuse, etc. Qui à un moment donné menaçait de tout faire sauter. Et en fait, c'est tellement bien écrit, si tu veux, que tu t'attaches aux personnages qui sont décrits dans ces logs-là, quoi, par exemple. Et ça, c'est enfin. C'est exceptionnel, quoi. Surtout que c'est des personnages, en fait, que tu vas plus ou moins croiser à certains moments, tu vois. Ou en tout cas, tu sens que leurs actions ont un rapport avec ce que toi tu fais là. Enfin, il y a vraiment une immersion qui se crée par rapport à ça. Alors par contre, je disais que c'est un jeu essentiellement axé sur le dialogue. Et d'ailleurs, vous pouvez faire tout le jeu sans tuer personne, quoi, en gros. Enfin, sans faire un seul combat. Par contre, il faut bien réaliser une chose, c'est qu'il y a aussi un système de combat en mode FPS, si tu veux. Mais honnêtement, c'est super bancal. Quand je dis bancal, c'est vraiment c'est très,
ouais,
très
parce
bancal,
que la façon dont tu m'en parlais, pour moi, il y avait pas du tout d'action. En fait.
Il y a de l'action.
Okay.
Parce qu'il va y avoir des événements qui vont faire que,
ouais.
Ah, tu sais, le Normandie, des fois, il est attaqué, bah, voilà, il se passe des trucs, quoi.
Ah, écoute.
Il y a un système de combat, mais tu peux faire l'intégralité du jeu sans tirer un seul coup de feu. Enfin, sans tirer un seul coup de feu. Disons que, peut-être qu'à un moment donné, tu vas des fois devoir neutraliser quelqu'un, mais, en gros, tu vas pas faire ce combat, quoi. Tu vas pouvoir, devoir des fois utiliser ton arme, etc. Mais c'est un jeu vraiment qui est axé sur le social, et qui ressemble, pour le coup, vraiment à ce que j'appelle un jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire où vraiment, tu entres dans la peau de ton personnage, et où tu décides de jouer un rôle, quoi. Parce que, en fait, c'est un jeu, où tu peux très bien décider, tu vois, de jouer le mec indifférent. Le mec qui est là, mais écoute, moi ça me concerne
rien
pas tout ça, mais l'histoire va continuer en fait, tu vois, malgré tout.
Ouais.
Même si tu décides de pas t'impliquer pour des raisons qui peuvent être personnelles, bah écoute, moi j'ai pas envie d'impacter, trop impacter le futur, etc. J'ai pas envie d'avoir cette responsabilité, par exemple. Bah tu peux le faire, sauf que l'histoire continuera et que bon, voilà, tu verras les conséquences de tes choix, quoi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu peux vraiment donner une personnalité à ton personnage. C'est que tu peux te comporter comme le gros connard froid, qui exécute froidement les gens, etc. Tu peux te comporter comme la grosse biatche qui parle sur tout le monde. Tu peux te comporter comme le mec sympa, tu vois, qui essaie d'aider les gens, etc. Enfin, tu joues vraiment un rôle. Et c'est ça, moi, par exemple, tu vois, qui me posait un problème dans The Walking Dead, où je me sentais spectateur. Et pourquoi je me sentais spectateur, en fait? Parce que oui, Lee, il est très bien écrit, etc., mais c'est un personnage qui se suffit à lui-même, il a pas besoin de moi. Et non seulement il a pas besoin de moi, mais en plus, quand je fais des actions, j'ai pas l'impression que ce sont mes actions, en fait. J'ai l'impression de jouer l'ambianceur, si tu veux, et que, en fait, je choisis l'ambiance du film, quoi. Alors que là, dans Consortium, j'ai vraiment l'impression que c'est moi. Tu vois, c'est moi qui suis au cœur de l'histoire et c'est moi qui impacte l'histoire et c'est moi qui me comporte comme une grosse putasse avec certains, etc., quoi. Et c'est vraiment ça qui a fait que j'étais à fond dans le jeu. Alors par contre, je précise, c'est un jeu qui, pourquoi je vous en parle maintenant, parce que il est sorti ultra buggé à l'époque et que en gros, j'estimais que ça valait pas le coup d'y jouer vu qu'il était ultra buggé. Alors ils ont sorti, ils ont reconnu qu'ils avaient fait une connerie, qu'ils auraient dû sortir le jeu en early access pour le finir comme il le fallait. Ils ont continué à patcher assez sérieusement le jeu et on va dire que maintenant il est à peu près, j'insiste sur le à peu près, il est à peu près bug free, quoi, on va dire. Il y a encore des bugs, mais c'est pas des bugs trop graves par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant. En tout cas, on va dire que c'est acceptable. Okay. Mais voilà, enfin, il y a, on va dire que si tu veux, tu vois que c'est un jeu qui a pas eu beaucoup de budget, hein. Ça a été financé sur Kickstarter, etc. C'est un jeu vraiment qui a d'énormes ambitions, mais tu sens que elles sont un peu contraintes par le budget. Mais je trouve quand même qu'ils ont fait un bon travail par rapport au budget qu'ils avaient.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais au niveau de la durée de vie, t'es à combien à peu près?
Alors, pour le finir, moi, si tu veux, le truc, c'est que j'ai mon compteur Steam qui affiche 14 heures, mais je sais que c'est beaucoup moins que ça. Il me semble que j'avais vu sur Canard PC, donc il y a des gens qui l'ont fini en 7 heures. Mais que moi, comme tu veux, j'expérimente pas mal, etc. Enfin, pour le test, j'ai dû expérimenter, donc forcément, voilà. Donc je dirais entre 7 et 10 heures, quoi, en gros, pour finir le jeu. Sachant qu'encore une fois, tu as une rejouabilité, quoi. Pour donner un exemple, en fait, à un moment donné, donc tu as une enquête à mener sur le navire. T'as plusieurs pistes qui s'ouvrent à toi. Et en fonction de la piste que tu vas suivre, en fait, t'as l'autre piste qui va se refermer derrière toi, en fait, et le jeu va pas du tout prendre la même tournure, quoi. Enfin, je peux pas en dire plus pour pas spoiler, mais le jeu prend vraiment des routes différentes en fonction des pistes que tu vas choisir pour ton enquête, quoi. Vraiment, c'est un jeu qui a un énorme potentiel à ce niveau-là, et il y a un vrai intérêt à le refaire, en tout cas.
Ouais, bah ça donne bien envie, effectivement. Donc tu conseilles, hein, si je comprends.
Alors, si vous aimez les jeux narratifs. J'insiste sur le narratif, hein, parce que ouais. Pour moi, je veux dire, la partie FPS, elle est à chier. Mais vraiment, hein, j'insiste là-dessus. C'est pas comme Mass Effect où on peut dire ce qu'on veut sur le jeu. Il y a un système de combat qui est assez solide, je trouve.
Oui, au niveau du TPS, ça va, même si c'est pas le point fort, mais ça va, c'était pas...
Si vous voulez un jeu absolument parfait, ultra polish, etc., zéro bug, c'est parfait pour vous non plus, parce que il y a encore quelques petits bugs quand même. Pour moi, ça reste acceptable parce qu'on va dire que j'étais élevé avec des RPG genre Vampire de Masquerade, Bloodlines, qui étaient dans des états beaucoup plus critiques que ça, quoi, on va dire. Et donc
tu as une tolérance.
Voilà, j'ai une tolérance naturelle au bug, quoi. Donc si ça vous file de l'urticaire, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez les jeux narratifs, qu'avoir quelques bugs ça vous pose pas de problème, et que vous aimez tous ces jeux, ces expériences qui brisent le quatrième mur, etc., je vous conseille d'y aller, d'autant plus que l'univers est très intéressant, que c'est vachement bien écrit, que tu prends un plaisir, en fait, si tu veux, à découvrir les codes de ce futur distant, à découvrir comment fonctionne l'organisation hiérarchique de ton équipage, etc. Est-ce que tu vas la jouer en mode je la joue vraiment discret, tu vois, j'essaie de m'intégrer à l'univers, ou est-ce que tu vas faire le mec qui bite rien à chaque fois et qui va poser des questions connes à chaque fois. Enfin, il y a vraiment, c'est un jeu qui est très bien fait, qui a beaucoup d'ambition, et moi j'aime bien récompenser l'ambition, surtout quand ça produit quelque chose d'aussi original. Voilà. Parce que pour moi vraiment, c'est quand on parle de jeu narratif. Pour moi, bah voilà, ça c'est un jeu narratif et c'est ce que j'attends du jeu vidéo, à savoir un jeu qui a des idées de gameplay, enfin où tes choix importent en fait, où c'est pas juste de la cosmétique, quoi, où c'est vraiment toi qui t'impliques personnellement dans le jeu, où tu te fonds dans le personnage, quoi. Un peu justement ce que j'attends de ce qu'on appelle un jeu de rôle, quoi. C'est pas un truc où t'es distant comme ça, où faut mettre un peu toi-même dans le personnage pour avoir quelque chose. C'est ton histoire à toi, quoi, mine de rien. Voilà. Donc, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je propose qu'on passe au point culture.
Non, c'est bon.
Donc, on va passer au point culture et ça s'appelle Snowpiercer. You're still determined to push ahead. Of course. This time we take the engine. Passengers, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. Keep your place. Security expert, he's in the prison section now. We can get him to cooperate. He can take us all the way to the front of the train. Are you Namgoon Minsu? Security specialist?
Snowpiercer, le transperce-neige. Donc c'est un film de science-fiction qui est sorti l'année dernière, qui est tiré en fait d'une bande dessinée franco-belge, donc qui a bien cartonné. C'est un film qui est fait en collaboration donc entre les États-Unis, la Corée du Sud et la France. Donc c'est américano-franco-sud-coréen comme production. Au niveau de l'histoire, on est en fait sur un monde post-apocalyptique où on a en fait l'humanité qui a voulu arrêter le réchauffement climatique, donc c'est-à-dire par rapport à de la géo-ingénierie, donc ça a engendré en fait un cataclysme qui a fait qu'on est sur une ère glaciaire permanente. Donc ça se passe en fait en 2031. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une société qui a fait un espèce de train à énergie perpétuelle qui tourne en fait tout autour du globe, et ça va être, on va dire, l'arche de Noé de l'humanité. Donc ça va être la dernière bride de civilisation humaine qui va être dans ce train, et donc on va suivre en fait le voyage, on va dire, la révolte plutôt des gens qui sont à l'arrière du train. C'est-à-dire que au niveau du train, il y a vraiment une hiérarchie où on a les gens du fond qui sont les clandestins qui ont été gardés, et plus on avance dans le train, plus on a les classes, la haute société. Donc le réalisateur, c'est Bong Joon-ho, hein, après ses films d'avant, je les connais pas trop à part un film qui s'appelle The Host. Donc on est vraiment sur quelque chose où on va suivre effectivement l'évolution de ces gens du fond. Donc c'est le personnage principal, il est joué par Chris Evans, donc pour pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui fait Captain America dans les films. Donc non, franchement, ben là, il est franchement, il élève son jeu d'acteur. C'est vraiment super bien joué à son niveau en tout cas. Et voilà, on va suivre en fait. Donc au départ, on est vraiment dans cette cabine du fond où on a tous ces clandestins, où on a une histoire où ils devaient au départ survivre sans rien manger, où il y a eu un peu de cannibalisme, on va dire. Et les gens du fond vont faire une révolte pour aller justement à l'avant et contrôler le train. Donc tout le film en fait va jouer sur en fait cette contradiction entre le fait se dire oui, ils vont à l'avant du train pour contrôler le train, mais au final les ressources ne sont pas infinies, donc il y a quand même un équilibre à avoir entre les différentes catégories, et si on garde tout le monde en vie, en fait on pourra pas s'en sortir. Donc au niveau de la direction artistique, surtout au fur et à mesure de l'avancée dans le train, on n'a même pas l'impression en fait d'être dans le même train. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un univers différent, une scénographie vraiment différente en fonction des différents wagons. Donc effectivement, l'avancée se fait de manière un peu en mode jeu vidéo où on avance à chaque wagon. Mais il y a toujours un renouvellement, que ce soit au niveau du scénario, de l'intrigue. Il y a vraiment des twists en permanence. On n'est pas dans quelque chose de manichéen. À chaque avancée dans l'histoire, ton cerveau se tourne complètement et se dit « Ah, finalement, peut-être que lui, il a raison et que lui, c'est le gentil, mais qu'en fait, il est pas vraiment si gentil que ça. » Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Il y a vraiment une critique de la société qui est faite, un propos qui est tenu. Donc dans tous les cas, c'est un film qui fait réfléchir et qui est bon à la fois au niveau de l'action, qui est tourné de manière aussi extrêmement intéressante. Il y a certains plans, séquences qui sont vraiment assez époustouflants, sachant qu'on n'est pas sur un gros budget non plus. C'est un film qui a coûté, je crois, dans les 70 millions. Donc pour un film, c'est pas un gros budget non plus, même si on est sur quelque chose qui est pour moi quand même quelque chose d'assez culte. En termes de cinéma.
Ok, donc on n'est pas sur un film. Parce que si tu veux, quand tu as commencé, tu m'as fait un peu peur parce que je me suis dit, oh putain, encore un film qui va nous faire la morale sur l'écologie, machin bidule. On a eu 36 millions, si tu veux, qui sont assez mal faits, en général.
Il y a un léger propos assez subtil, mais on est plus en fait sur la nature humaine que sur cet aspect, oui, écologie, oui, la terre.
Si tu veux, j'ai plus l'impression que tu m'as fait la présentation d'un film post-apo. Mais avec un setting assez particulier, quoi, en fait.
Exactement, c'est-à-dire qu'en plus du fait qu'on est sur ce train qui tourne de manière perpétuelle et qu'on est vraiment dans un espèce de huis clos, dans un espace clos où t'as en fait une espèce de doctrine qui est faite par rapport, parce que plus t'avances dans le train, plus tu vois en fait il y a vraiment une société dans ce train, et il y a une espèce de doctrine qui est tournée autour du créateur de ce train, et t'es vraiment dans quelque chose, parce que il y a des moments dans le film où on est dans quelque chose de surréaliste, quoi. On est un peu dans du steampunk. Enfin, on change d'ambiance totalement au cours du film, et c'est vraiment super intéressant de voir cet aspect de l'humanité, cette doctrine qui est développée tout au long de l'avancée dans le train, en fait.
Je sais pas pourquoi j'ai pensé à BioShock quand tu m'as fait la présentation du truc.
Bah ouais, il y a des petits aspects un peu steampunk. Après, c'est pas.
Non, mais je veux dire, dans le côté, tu vois, BioShock, enfin, t'as un espèce de culte de la personnalité, surtout dans BioShock Infinite, en fait, donc où t'as l'espèce de père machin là qui dirige toute la ville, etc.
Ouais, bah c'est un peu ça. T'as effectivement cet aspect un peu à la BioShock dans le sens doctrine. T'as tous les gamins qui sont effectivement, oui, donc c'est comme ça, t'as les gens au fond. Il y a un moment une gamine, mais t'as envie de la baffer, mais en plus elle joue super bien, où elle te fait, oui, donc les gens du fond là, c'est comme ça. Enfin, il y a vraiment, ils sont endoctrinés, mais de manière assez impressionnante, et justement voir l'avancée au fur et à mesure est vraiment intéressante. Donc moi, franchement, c'est un film que je conseille. Hein. Moi, il est sorti en Blu-ray, je crois il y a un mois. Donc c'est vraiment super intéressant. Après, il a été distribué, je crois, de manière de manière un peu bizarre, c'est-à-dire que là, par exemple, aux US, il va sortir en juillet, chez nous, il est sorti en octobre. Enfin, il y a une distribution comme ça un peu bizarre. Donc franchement, si vous aimez le film, parce que je sais que vous allez faire votre tonton des États-Unis l'importer, donc si vous aimez bien, franchement, il faut quand même soutenir. Donc Snowpiercer, que je conseille vivement. Est-ce que tu avais d'autres questions?
Non, tu m'as paru avoir fait une bonne présentation. Bon, le jeu d'acteur est bien, de ce que j'ai compris.
Franchement, après, Chris Evans, c'est vraiment un acteur qui est en train de monter. Enfin, comme je le suis depuis un moment, c'est un acteur qui monte vraiment par rapport à son jeu. Et là, il a fait un super choix en allant vers ce Snowpiercer. Donc, franchement, là, au niveau de l'interprétation... On est sur un truc assez nickel, sachant qu'il y a aussi une actrice que j'adore, donc qui a une vraie gueule en fait, qui s'appelle Tilda Swinton. C'est vraiment super intéressant, que ce soit au niveau du jeu d'acteur, de la DA, de la réflexion sur l'humanité, à ce niveau-là. C'est un film qui m'a franchement ouvert l'esprit, donc je le conseille vivement.
Ok, donc nous allons nous arrêter là pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Bye bye.